France Culture.
Talmudique. S'inspirant de Wittgenstein, on peut dire qu'il faut parfois retirer de la pensée une idée et la donner à nettoyer pour pouvoir ensuite la remettre en circulation. C'est peut-être là le sens du pshat, le sens littéral, qu'évoque l'herméneutique talmudique dont l'une des significations est le déshabillage, le hit pashet, déshabillage des idées qui doivent se dépouiller des sens qui se sont fait habits et habitudes. C'est cette méthode qui est mise en œuvre dans un livre, il faudrait dire une somme, que l'on doit au rabbin Rivon Krigier, intitulé « Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme », paru aux éditions In Press. Un livre qui revisite poncifs, clichés et stéréotypes de la pensée juive et qui nous invite à les abandonner pour penser selon des perspectives insoupçonnées, s'étant rappelé, comme l'écrivait Proust dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », que toute nouveauté a pour condition l'élimination préalable du poncif auquel nous étions habitués et qui nous semblait la réalité même. Un exercice de l'esprit critique qui rend capable de penser contre soi-même, une manière d'être particulièrement bienvenue en cette période de liberté et de libération qui suit la sortie d'Égypte, commémorée par la fête de Pessah, et qui nous conduit jusqu'à la fête de Shavuot, fête de la révélation et du don de la loi dont nous allons approfondir le sens au cours de deux entretiens. Rabbin Rivon Krigier, bonjour.
Bonjour.
Rivon Krigier, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau dans Talmudique. Je rappelle que vous êtes rabbin du mouvement Ma Sortie, dont il faudra dire un mot. Vous êtes ordonné de l'Institut Sherter de Jérusalem, docteur en sciences des religions et docteur honoris causa du très prestigieux Jewish Theological Seminary of America. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages importants consacrés à la pensée juive et en particulier à la place de la loi et de son évolution dans le judaïsme. Vous êtes aussi très engagé dans le dialogue interreligieux et vous avez d'ailleurs reçu le prix des amitiés judéo-chrétiennes de France en 2013. Pour comprendre les enjeux de votre réflexion, je crois qu'il est important d'expliquer pour commencer comment le judaïsme contemporain est constitué de différents courants. J'aime à me souvenir de cette formule du rabbin Zawi, il n'y a pas de judaïsme libéral ou orthodoxe, mais une approche libérale ou orthodoxe du judaïsme, rabbin Rivon Krigier.
Oui, en effet, le mouvement Ma Sortie n'est pas une secte ou une religion en tant que telle. C'est une approche, c'est une méthodologie pour penser le judaïsme. Il est parfois difficile à définir parce qu'il est dans une espèce d'entre-deux entre la tendance libérale d'une part et la tendance conservatrice. Moi, j'aime à dire que le propre de ce mouvement, c'est d'être une sorte de trait d'union. C'est pas très visible, le trait d'union, mais c'est un élément du langage, ou plutôt de l'écrit, qui est absolument déterminant puisque il s'agit de faire la conjonction à la fois avec la tradition et les apports importants de la modernité. Pour moi, il y a deux mots-clés. C'est enquête et quête. C'est non pas asséner des dogmes, mais être en recherche et donc dans le dialogue entre ces deux tendances.
Alors ma question était, il y a plusieurs mouvements dans le judaïsme et je vous demandais de les définir et c'est ensuite que je vous aurais demandé comment vous vous situez par rapport à ces différents courants.
Pour moi, le libéralisme, c'est la volonté de s'insérer dans le siècle, au présent, de répondre aux défis du présent avec tout ce que les valeurs du judaïsme peuvent apporter. L'autre approche de l'orthodoxie, elle est soucieuse de montrer la force et la puissance de la mémoire et de la tradition. Donc ces deux éléments sont vitaux, mais le problème c'est qu'ils rentrent en conflit l'un avec l'autre, il faut résoudre cette équation.
Et le mouvement Ma Sortie auquel vous appartenez, en fait, comme vous venez de le dire, fait le trait d'union entre ce passé et ce présent. On va approfondir cette idée. J'ai aimé dans votre livre la partie autobiographique où vous racontez votre parcours. Vous citez notamment l'un de vos maîtres de jeunesse, Léon Ashkenazi, qui disait avec humour « Tout juif est juif, même les juifs pieux, et y compris les juifs non sionistes, les juifs enrhumés et les juifs philatélistes ». C'est dans un chapitre sur l'hérésie, l'une des idées d'ailleurs que vous déconstruisez, que vous donnez au nettoyage, selon l'expression de Wittgenstein que j'ai citée dans l'introduction. Ma question, c'est comment justement ce rapport à l'ouverture et à ce judaïsme qui inclut tous les juifs sans faire de distinction de courant.
On touche à un problème universel. Tout courant d'idées, et en particulier religion, lorsqu'il prétend à détenir la vérité, a tendance à mépriser toute opposition, s'installe dans une position autoritaire et inquisitoire. Autour de l'idée de l'exclusivité de la vérité, il y a l'exclusion de celui qui n'y adhère pas. Et c'est très violent. On est souvent beaucoup plus violent avec, entre guillemets, les frères ennemis qu'avec les ennemis de l'extérieur. Et la haine, le mépris envers, entre guillemets, l'hérétique est très présente, y compris dans nos sources. Beaucoup de juifs n'aiment pas trop regarder cet aspect-là des choses, mais il faut ouvrir les textes et admettre que, alors qu'au Moyen-Âge, on a poursuivi de manière très très violente toute hérésie, le judaïsme idéologiquement, à défaut de le faire politiquement parce qu'il n'en avait pas les moyens, a participé à ce mouvement. Un des traits de la modernité, c'est justement c'est qu'on a sapé ce côté absolu de l'autorité et désormais, le devoir est non pas d'imposer, mais de convaincre. Et c'est là tout l'enjeu.
Comment avez-vous construit et écrit cet ouvrage? Quel est son fil conducteur et quelle est sa préoccupation, la préoccupation commune qu'on découvre au fil de ces pages, Rabbin Krigier?
D'abord, au fil de mes études et de ma carrière, je me suis rendu compte que communément, beaucoup de poncifs, comme vous l'avez dit au début de l'émission, des stéréotypes circulent, des espèces d'évidences qui, en réalité, véhiculent une idéologie et une idéologie très problématique et à bien des égards fondamentaliste. C'est le titre de mon ouvrage. Je songe, par exemple, mais on en reparlera, à l'affirmation qui est comme une évidence que le grand slogan du judaïsme, c'est nous ferons et ensuite nous comprendrons ce que nous ferons. On a assez venishma. Et que c'est indiscutable, que c'est le propre de la démarche juive. Ou que le judaïsme est constitué de 613 commandements indéboulonnables. Or, ce type de concession mérite d'être révisé. Donc tout au long, j'essaye de déconstruire ce qui laisserait penser que le judaïsme se résume à un mot qui est soumission, qui est obéissance aveugle. Or, ce n'est pas le cas. Le judaïsme construit sur l'idée d'un partenariat entre l'exigence divine et la conscience humaine. Et c'est là le fil rouge de tout cet ouvrage.
C'est-à-dire une expression de l'esprit critique et de l'intelligence. La foi n'est pas une foi aveugle, mais une foi accompagnée d'une forme de sagesse et de scruter les textes pour en trouver l'intelligence et la pertinence.
La croyance, c'est une conviction. Il n'y a pas de place pour la crédulité. Ou alors, c'est une foi très très diminuée et une foi qui nous entraîne dans tous les excès.
Alors, le judaïsme est traversé par deux courants antagonistes que vous appelez d'une part fondamentaliste et de l'autre part humaniste. Deux notions qu'il est important de définir pour que nous puissions mieux comprendre ensuite les enjeux de notre conversation, Rabbin Krigier.
Je ne vous cache pas que quand j'ai annoncé à certains amis que le livre s'appellerait « Fondamentalisme et humanisme » dans le judaïsme, ils étaient choqués. Ils disent « Quoi ? Du fondamentalisme dans le judaïsme ? Ça n'existe pas. » Il y a une espèce de déni. On est dans une espèce de réflexe sur la défensive et on ne veut voir que ce qui va dans le sens de la glorification. Et c'est ça, déjà, un des traits du fondamentalisme. C'est ce déni de réalité. Mais historiquement, le fondamentalisme, ça correspond à un mouvement d'idées au tournant du 19e, 20e siècle, dans le milieu protestant, qui consistait à dire que la véritable religion, elle s'est produite en un temps donné de l'histoire, une espèce d'âge d'or. Pour les chrétiens, c'était le temps du Christ. Pour les musulmans, c'est le temps de Mahomet. Et que ensuite, la religion a dérivé et qu'elle s'est dégradée. Elle a trahi ses fondamentaux. Et qu'en somme, il faut essayer de revenir à ce passé idyllique, à cet âge d'or. Et ça, c'est ce que j'appelle le fondamentalisme. Ce n'est pas une condamnation du passé, c'est l'attitude passéiste et qui surdétermine et idéalise ce passé. Quant à la notion d'humanisme, enfin, c'est aussi une notion qui est née au tournant du 19e, 20e siècle. Au départ, pour parler de la Renaissance et de la remise en cause du pouvoir du clergé pour revenir à la culture universelle, Ce terme a pris plusieurs sens au cours de l'histoire et celui que je retiens, c'est celui qui met au cœur la dignité humaine, le sens de l'équité et qui est présent dans la Bible. Ce n'est pas une notion externe, puisque un des tout premiers versets, un des versets clés du judaïsme, c'est celui qui dit que tout être humain est créé à l'image de Dieu, masculin et féminin. Donc c'est la dignité la plus éminente et c'est aussi une vision égalitaire, une vision qui vaut pour tous les hommes et masculin et féminin.
On comprend donc que vous allez déconstruire des idées qui sont devenues des slogans, des stéréotypes, que vous allez critiquer tout le long de votre réflexion, le fondamentalisme, c'est-à-dire cet enfermement dans le passé, pour transformer le passé en passéisme. Mais vous ne le faites pas simplement en donnant votre propre réflexion, vous abordez tout cela à travers les textes de la tradition, ce qui fait de votre livre quelque chose de très vivifiant, de très frais, puisqu'on a l'impression d'assister à un cours. On peut vous suivre, c'est très agréable, mais ce qui est important, c'est que vous expliquez la méthodologie, votre méthodologie, et pour que nous la comprenions bien, vous la distinguez de d'autres méthodologies, et vous développez deux méthodologies différentes, ce que vous appelez l'approche scolastique et l'approche académique, Rabbin Krigier.
Oui, alors d'abord, il faut comprendre que ce livre, ce n'est pas une contestation en règle de la tradition juive. Cela consiste à montrer qu'à l'intérieur même de la tradition, il y a deux tendances majeures qui sont en opposition, qui sont en tension l'une avec l'autre. Et que quand on creuse, on peut découvrir qu'il y a un enjeu. C'est pourquoi c'est avant tout une enquête et que ce livre ne se contente pas de dire des thèses ou des critiques, mais cherche à d'abord donner des éléments qui sont le fruit d'une enquête. Au niveau de la méthodologie, vous avez raison, c'est capital. Le propre d'une approche moderne, c'est précisément l'interdisciplinarité. C'est confronter les idées, confronter les textes, pas seulement à l'intérieur de la tradition, mais aussi avec la culture environnante. C'est prendre en compte l'histoire, l'évolution. À partir du moment où le paramètre de référence n'est plus uniquement la tradition qui justifie les livres par les livres, qui est dans une espèce de tour d'ivoire d'autosatisfaction ou d'autoconstruction, comme si le monde environnant était indifférent. Eh bien, à partir du moment où on sort de ce système et on est dans une approche de dialogue et de confrontation, alors on est effectivement dans une approche de type universitaire, académique, c'est-à-dire global et interdisciplinaire.
Et dans l'autre cas, on est dans quelque chose de scolastique. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette double approche est parfois présente au sein d'un même auteur, ce qui fait que l'on est un peu perdu. Et je pense particulièrement à Maïmonide, qui est l'un des fils rouges de votre réflexion, un auteur qui mérite qu'on s'y arrête quelques instants. Il est, selon ce que j'ai compris de ce que vous dites, à la fois fondamentaliste et humaniste, scolastique et académique. C'est intéressant, Rabbin Krigier.
Oui, ce n'est pas par hasard qu'on le dénomme l'aigle de la synagogue. C'est une personnalité hors du commun par son érudition et son intelligence. Mais il ne faut pas oublier qu'il vit au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge, et qu'il est face au fondamentalisme musulman et à l'éveil des religions qui essayent de se définir de manière dogmatique, et il veut trouver une réponse pour le judaïsme. Alors, sa réponse, c'est d'inventer le dogmatisme juif. Et c'est autant sur un plan d'ailleurs intellectuel que légal qu'il construit un système autoritaire qui pèse si lourd que jusqu'à aujourd'hui, il a une influence sur le monde religieux, et c'est précisément parce que des modernes veulent revenir à la normativité médiévale, voire antique, que c'est dangereux et problématique et que l'on peut qualifier cela de fondamentalisme. Donc, quand Maïmonide a fixé la loi, oui, il a posé un gros problème à l'avenir de la tradition juive. D'un autre côté, dans la démarche de Maïmonide, il a tout le temps l'idée de remonter en amont de la loi et de voir quels sont les grands principes, les idées directrices qui décident de la normativité. Et par cette démarche qui consiste à remonter aux valeurs et dire que ce sont elles qui sont déterminantes, en réalité, paradoxalement, Il est le père de l'humanisme juif. Il récuse l'obéissance aveugle. Il dit il faut que la religiosité soit raisonnée. Bien sûr, ça va au-delà de la raison, mais il faut qu'elle soit fondée sur des valeurs. Donc il reste une référence également incontournable pour toute personne qui veut fonder son judaïsme sur l'humanisme.
Nous sommes en train d'entendre une chanson de Shlomo Carlebach, un rabbin, poète, compositeur, qui reprend ici les paroles des Lamentations de Jérémie dans le chapitre 5 au verset 21. Je le lis en hébreu et Rabbin Krigé, vous allez nous le traduire. Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva, Chadesh Yamenu Kekedem, un verset qui mérite un commentaire et qui, me semble-t-il, est un magnifique écho à la dialectique de l'ancien et du nouveau que nous avons évoqué, et qui permet de reposer cette question, parce qu'on critique le passé, mais en quoi s'enfermer dans le passé est-il si négatif? Commençons par la traduction du verset.
« Ramène-nous, Éternel, nous reviendrons vers toi. Renouvelle nos jours comme au temps jadis. » Alors effectivement, il y a quelque chose de paradoxal. « Renouvelle nos jours comme au temps jadis. » Est-ce à dire qu'il faut que nos jours redeviennent ce qu'ils étaient dans le passé, et auquel cas nous serions tournés vers ce passé et donc fondamentalistes, ou au contraire, il faut que nous soyons dans une approche novatrice, comme c'était déjà le cas dans le passé, et que nous renouions avec cette source vivifiante, auquel cas la direction reste l'humanisme.
Enfin, c'est un verset qui peut être interprété soit de manière fondamentaliste, soit de manière humaniste. Alors pourquoi dans le fondamentalisme, cet enfermement dans le passé est si négatif? On en a l'intuition, mais j'aimerais vous entendre plus là-dessus.
Le passé est une richesse, le passé est une mémoire. Et il n'y a pas de civilisation et de religion sans tirer tout le bénéfice de cette sagesse. Mais il faut se rendre compte que nous avons une civilisation millénaire, et que la normativité d'il y a 3000 ans n'est plus la nôtre. Et est-ce que vraiment on souhaite y revenir? Parmi les 613 commandements définis par Maïmonide, et on aura probablement l'occasion d'y revenir, il y a les punitions capitales et publiques, les punitions corporelles, il y a le patriarcat avec la soumission de la femme, l'esclavage, le droit par exemple d'un père de vendre sa fille en esclave. Et il y a des tas d'aspects que si nous devions revenir à l'application des 613 commandements, nous serions vraiment dans une situation plutôt problématique. Alors je ne dis pas que c'est le programme actuel, mais que le judaïsme classique n'a pas renoncé à ces commandements de base. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde religieux pose problème parce qu'il a tendance à revenir vers ce système antique et autoritaire.
On va donner un exemple, je crois que c'est le plus simple, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que déjà Dans le judaïsme classique, il y a une évolution de la loi, c'est le sens du Talmud qui s'appelle la loi orale par rapport à la loi écrite dans laquelle on a repéré, ou certains maîtres ont repéré, comme Maïmonide, les 613 commandements. Donc l'évolution existe, sauf qu'on oublie qu'il y a une évolution et que la loi doit continuer à évoluer. Et donc l'exemple que j'aimerais que l'on prenne, puisque c'est un exemple de votre livre, c'est celui de l'esclavage que vous venez justement d'évoquer, Rabbin Crigier.
Oui, ben c'est un bon exemple parce que justement la question semble réglée. Mais elle n'était pas réglable d'évidence et d'entrée de jeu. Le fait est que dans la Torah, il y a une idéalisation de l'émancipation. Hein, on vient de célébrer la sortie d'Égypte. Mais la Torah légifère sur l'esclavage. Elle n'abolit pas l'esclavage, notamment pour les esclaves étrangers. Et selon la lecture qu'en fait Maïmonide, il dit que parmi les 613 commandements indéboulonnables, écoutez bien, il y a l'interdit d'émanciper les esclaves étrangers. Ils sont esclaves à vie et même ils passent en héritage aux générations suivantes. Et pourtant, effectivement, déjà dès le Talmud, il y a un maître, Rabbi Eliezer, qui libère son esclave. Il y a toute une discussion pourquoi il l'a fait. Et lorsque on va arriver au temps moderne et que va se poser la question au niveau de la société de l'abolition de l'esclavage, ben les rabbins vont devoir se positionner dans une position très inconfortable puisque ça fait partie de la loi talmudique et de la loi rabbinique édictée par Maïmonide, d'autoriser l'esclavage et d'interdire l'émancipation, savoir comment on retombe sur ses pieds et on accepte ou non l'abolition. Alors on a des très beaux exemples. Celui que je citerai, et que je cite dans mon livre, bien entendu, avec les sources, c'est celui évoqué par Nahum Rabinovitz, une grande figure du XXe siècle, un rabbin israélien, qui considère que l'esclavage est une espèce de dérivation qui s'est imposée par les conditions de la société à travers le temps, que unanimement, dans les grandes civilisations, y compris pour les grands philosophes grecs comme Aristote et Platon, l'esclavage était aussi évident que le fait qu'aujourd'hui il y a des travailleurs, des ouvriers. Mais il dit que fondamentalement la Torah récuse le principe de soumettre un homme à l'autorité d'un autre. Et il se fonde sur ce fameux verset que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Donc sur l'humanisme juif. Et il dit, si les conditions technologiques et la maturation de la société le permet, cela devient un devoir au nom de la Torah elle-même de libérer les esclaves. Mais vous voyez, ce n'est pas une évidence, puisque ça remet en cause la réification que Maïmonide a fait des 613 commandements. Cela suppose une conception évolutive de la loi.
Vous avez évoqué les 613 commandements indéboulonnables. De quoi s'agit-il exactement? On comprend que le compte des commandements que proposent certains textes de la tradition doit être entendu de manière prudente et critique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 613 commandements, ou peut-être encore un autre nombre a été proposé dans cette tradition, Rabbin Crigier?
Alors c'est un long chapitre passionnant de voir comment on est arrivé à cela. Parce que évidemment, quand on ouvre le Pentateuque, quand on ouvre la Torah, on voit de nombreux commandements, mais il n'y a aucune énumération, pas de compute. Qui peut déterminer le nombre? Est-ce que le Shabbat, c'est un commandement, deux, ou des centaines, voire plusieurs centaines, comme c'est le cas aujourd'hui dans les traités qui parlent de la pratique du shabbatique? Il n'y a pas de classification. Et c'est arrivé assez tardivement dans l'histoire du judaïsme. Quand on est à la fin du IIe siècle, à l'époque de la Mishnah, il n'y a toujours pas, même le nombre 613 qui apparaît clairement, ça ne vient qu'ensuite. Il faudra en réalité attendre le 8e et 9e siècle, l'époque des grands maîtres des académies de Babylone, les Géonim, pour qu'on commence à donner un nom et à ce chiffre, et que ce chiffre commence à prendre de l'importance. Je démontre dans l'ouvrage, au lecteur d'en juger, que ce chiffre ne provient pas d'élucubrations midrashiques comme on peut le croire, mais en réalité du chiffre symbolique du fait que dans le décalogue, les 10 commandements, le nombre de lettres est de 600, non pas 613, mais 620. De ce chiffre a été décompté 7 commandements que l'on considère comme ayant précédé la révélation du Sinaï, les commandements donnés à Noé. Donc on a ici une double tradition tirée du décalogue à partir du compte symbolique des lettres qui le composent. 613 plus 7 pour toute l'humanité, et 613 en propre pour le judaïsme.
C'est très intéressant parce que dans ces 613, les maîtres ont rajouté une répartition entre les commandements positifs et les commandements négatifs. 365 commandements négatifs et 248 positifs qu'ils mettent en relation avec les parties du corps, Rabbin Krigé.
Oui, ce sont des fioritures esthétiques pour essayer de justifier et de colorer en fait la signification de 613. Mais là aussi, je vous mets au défi de compter le nombre d'organes. C'est ce que dit le texte, 248 organes. Mais quel organe? Est-ce qu'il y en a vraiment 248? Comment on compte un organe? Est-ce qu'un doigt, c'est un organe ou c'est plusieurs? Alors certains modernes ont dit que c'est le nombre des ossements. Je me suis intéressé à la question et j'ai vu que les spécialistes, les anatomistes montrent qu'au cours de la vie humaine, le nombre d'os évolue. Quand on est bébé, il y a des tas d'os qui sont fusionnés encore. Et puis, le nombre d'os n'est pas égal pour chaque individu. C'est tout à fait passionnant. Finalement, il semblerait que Evarim, c'est un jeu de mots avec Avraham.
Evarim qui veut dire organes. Les membres, les organes.
Oui. Avraham, sa valeur numérique est de 248. Donc, c'est très probablement ce côté symbolique. Le premier homme qui a été engagé dans l'action voulu de Dieu, c'est Abraham. Donc c'est à partir de là que ce chiffre a été constitué.
Mais ce qui est très important dans votre réflexion, c'est que vous appelez déconstruction justement et déconstruction du fondamentalisme, c'est de dire que nous sommes habitués et nous répétons, je dirais, de siècle en siècle, d'enseignement en enseignement, de cours de Talmud Torah en cours de Talmud Torah, qu'il y a 613 commandements. Et donc la personne qui apprend a l'impression que c'est quelque chose d'immuable, de gravé dans le marbre, alors que ce n'est qu'une interprétation. Et puisque ce n'est qu'une interprétation, le conte qui a été fait, comme le fait Maïmonide, peut évoluer, ce qui permet justement une évolution de la loi et non pas s'enfermer dans quelque chose qui est de l'ordre du passé. C'est surtout cela que vous voulez souligner.
Oui, alors c'est un point très important. D'abord, il était pas mal critiqué et par des très grandes figures, Narmanide par exemple, qui dit « bon, je veux bien accepter le chiffre 613 parce que tout le monde en parle, donc je l'adopte ». Mais il dit « je suis pas du tout d'accord avec la façon dont Maïmonide les compte, il y en a au moins une cinquantaine qu'il conteste totalement et ça va être un très très grand débat ». Mais le danger, c'est qu'à partir du moment où on les a fixés comme des commandements éternels et que Maïmonide ajoute dans son Mishneh Torah, dans son grand livre de codification, que toute personne qui en conteste l'autorité et qui conteste l'idée qu'un jour, lorsque l'opportunité nous sera donnée, nous aurons le devoir de les restaurer, est un hérétique et qu'il doit être donc trucidé. Alors là, on est dans quelque chose de très très grave parce que ça veut dire que nous devons idéalement aspirer à revenir à cette normativité archaïque que je décrivais tout à l'heure. Et c'est ça le danger. C'est pas le chiffre symbolique du 613 qui est la profusion des ordres divins qui est très belle. Nous sommes les héritiers de ces nombreux commandements, mais notre vision doit être arborescente. Ce sont nos racines, mais l'arbre ne se résume pas à ses racines.
Ce qui est important, c'est que vous avez signalé par le jeu de mots de 613 et 620 qu'il y avait 7 lois noachides. C'est peu connu. Qu'est-ce que sont ces lois et en quoi elles sont importantes de non seulement de les connaître, mais de pouvoir les rencontrer et les appliquer d'un point de vue social et politique?
Alors, je voudrais commencer par dire que c'est une des idées les plus géniales du Talmud, d'une très grande modernité, et qui consiste à dire que pour s'accomplir sur un plan spirituel, dans la vie, on n'est pas obligé de se convertir au judaïsme. Qu'il y a une espèce de spiritualité fondamentale, universelle, qui est de respecter un certain nombre de commandements d'équité. C'est ça le mot-clé. De sens de la justice, tel que c'est ordonné à Abraham. Tel que c'est déjà demandé à Noé, d'où l'idée de loi noachide, et que la tradition a énuméré au nombre de 7, ne pas voler, ne pas tuer, un certain nombre de choses. Et cette idée que on s'accomplit, on a le droit au monde à venir, etc., sans se convertir, c'est ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui dans un monde globalisé, où nous devons apprendre à cohabiter les uns avec les autres et estimer ceux qui ont d'autres spiritualités. Mais il y a aussi une acception fondamentaliste de cette loi noachide qui consiste à dire, oui, à condition d'admettre que c'est Moïse qui les a révélés, il faut accepter l'autorité de la Torah, donc on en revient à se soumettre au système juif, et aussi avec un système punitif tel que Maïmonide le conçoit au Moyen-Âge, que toute personne qui transgresse cet commandement est punie de la peine de mort. Et donc on est dans un paradoxe, on a une idée universelle extraordinaire, mais dans son interprétation médiévale, elle est extrêmement rigide et sévère. Donc là aussi, une approche humaniste des commandements noachides s'impose.
C'est-à-dire qu'il faut déconstruire cette vision maïmonidienne de ces lois noachides. Comment l'avez-vous déconstruit et comment vous ouvrez la porte de l'humanisme par rapport à ces 7 lois, comme vous ouvrez la porte humaniste aux 613 commandements dans le judaïsme, Rabbin Krigier?
Mais tout simplement en se rendant compte que lorsque on regarde les sources talmudiques elles-mêmes, elles n'imposent pas une clause de croire en la révélation de Moïse pour accomplir ses commandements. Parfois, on voit des personnes, l'exemple dans le Talmud d'un bourreau qui accepte de permettre à Rabbi Hanania ben Tradion, un des grands maîtres persécutés sous l'époque romaine, de mourir dans des meilleures conditions. On y voit un acte méritoire dans lequel il a mis sa vie en cause, un acte d'une telle puissance que ça lui donne en tant que tel le droit au monde à venir. On n'est pas du tout ici dans une approche rigoriste qui impose des dogmes, ni dans un système répressif. On est dans la vision qu'il y a des justes, ce qui donnera lieu à la fameuse notion de juste parmi les nations, des personnes qui sont prêtes à mettre leur vie en jeu lorsque, j'ai envie de dire, de leur tripes, plus que même leur intelligence, leur sens de la justice les amène à réagir. Alors oui, il faut revisiter les sources et voir que l'acception répressive n'est pas la seule interprétation possible de ces commandements.
Merci Rabbin Rivon Krigier pour cette conversation passionnante et urgente par les temps qui courent. Une conversation que je vous propose de poursuivre la semaine prochaine. En attendant, je rappelle le titre de votre livre, un ouvrage précieux et important, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme. C'est aux éditions In Press. Merci encore Rabbin Rivon Krigier.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Tahar Bouklifa, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, le Yitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.